Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir aujourd'hui sur l'histoire des biocarburants. Ça fait quand même quelques décennies maintenant. Et pourquoi j'y reviens? Parce qu'il y a un parallèle à faire sur un nouvel épisode, l'épisode du biométhane, c'est-à-dire du méthane fabriqué à partir de l'agriculture pour ce qui nous concerne dans le département et des parallèles qu'il y a à faire. Voilà. Alors l'origine de ces biocarburants, eh bien, c'est surtout arrivé après le deuxième choc pétrolier de 79 qui va ouvrir la voie, mais la réalité surtout, c'est que ça a été poussé comme pseudo-solution par rapport à la crise agricole. Donc on peut dire grosso modo une quarantaine d'années et puis on peut faire le bilan aujourd'hui. Alors cette progression des 10 biocarburants qu'on doit appeler en réalité des agrocarburants parce qu'ils sont absolument pas bio, va être dénoncé dès le début par un certain nombre d'organisations environnementales, mais aussi par d'autres organisations, en particulier, je pense à la CGT, tout simplement, parce que il y a de nombreux aspects négatifs, et je vais y revenir. Alors aujourd'hui, les biocarburants, ça représente en France 3% des terres cultivées. Donc avec ce débouché là qui a été présenté comme une bouée de secours en quelque sorte pour les agriculteurs, on va tenter de les rassurer. Et ce n'est certainement pas un hasard si l'actuel président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est en même temps, à vous de voir si c'est le hasard, dirigeant du groupe Avril, ce groupe qui est spécialisé dans la transformation des produits agricoles en agrocarburants. Alors, il existe plusieurs types de 10 biocarburants. Alors, des fois, je dis biocarburants parce que c'est le mot qu'on a dans la tête, même si on devrait dire agrocarburants. Il en existe plusieurs types et on nous fait des promesses aussi sur d'autres types qui devraient arriver plus tard. En fait, ceux qu'on connaît qui sont opérationnels, si je peux dire, eh bien, ce sont ceux qui entrent en concurrence directe avec l'agroalimentaire. Hein, je cite le bioéthanol, qui est en réalité produit par du blé, par du maïs et de la betterave sucrière. Il est utilisé dans les moteurs d'essence, ce bioéthanol, avec des variations autour de 5%. Que l'on va donc injecter dans le super classique et le tour va être joué. On va même se payer le culot, enfin certains se payent le culot de dire ça y est, on l'a transformé en bio parce qu'on en a mis quelques pourcents. C'est la même opération avec le diesel, hein, le fameux biodiesel, le diester. En fait, on va le fabriquer avec différents acides gras, notamment des huiles de soja, de colza, de tournesol, de palme et un peu d'huile végétale autre. Il est utilisé donc dans les moteurs diesel avec un ajout sur le diesel classique de 7% de ce produit miracle et l'affaire va être faite. Alors il y a des projets dits de biocarburants de deuxième génération. En fait, ce sont des technologies qui sont mise au point actuellement, ça ne marche pas des masses, on peut dire, mais en tout cas, on y travaille sur le plan industriel avec notamment des matières cellulosiques, c'est-à-dire le bois et les dérivés du bois, les feuilles, etc. Alors, ça, c'est en cours d'industrialisation avec quand même quelques déboires. Et puis, il y a les vraies fausses solutions, on a parlé beaucoup de la récupération des huiles alimentaires usagées. Alors, je vous passe le calcul puisque je l'ai fait. En fait, la proportion n'y est pas du tout en termes de solution. C'est une solution si on considère qu'on ne s'intéresse pas au volume. Si on mettait un volume conséquent en termes de solution pour la récupération des huiles de friture, eh bien, on serait dans l'obligation de manger des frites matin, midi et soir. Et là, on ferait décoller un petit peu le diagramme pour nous dire que c'est une solution. En fait, c'est tout à fait un épiphénomène, c'est pas une solution en termes de volume, sauf si vous mangez des frites, si vous décidez de le faire à tous les repas. Alors, il y a aussi, pour l'aviation, je fais un focus sur l'aviation, puisque notre président Mitterrand nous a fait tout un baratin au Salon du Bourget là-dessus. C'est vraiment aussi la baguette magique. Il suffit d'incorporer quelques pourcents de carburant agricole, dans le carburant classique, ce qu'on appelle le jet. Et voilà, d'un coup de baguette magique, on se retrouve avec du carburant vert. On invente donc le biojet à quelques pourcents, le SAF en anglais, ce qui veut dire en français le carburant d'aviation durable. Donc sur le plan de la com, en fait, la solution consiste à injecter une petite proportion d'éthanol agricole dans du kérosène classique et on va le baptiser donc en kérosène vert et même on se paye le culot de parler d'avion vert. Donc il n'en est pas, c'est pas le cas, mais en tout cas c'est le message qu'on tente de nous faire passer. Alors il y a plusieurs enjeux environnementaux derrière ces biocarburants. Je me répète, c'est aussi pour faire le parallèle avec ce qu'on est en train de nous placer, c'est-à-dire le biométhane. La combustion de carburant issu de sources fossiles produit des émissions de gaz à effet de serre, ça on le sait tous, hein, ce qu'on appelle les GES, mais les dits biocarburants, eh bien c'est pareil, produisent aussi des gaz à effet de serre. Donc la production et l'utilisation de ces biocarburants a plusieurs impacts, dont celui que je viens de citer. Elle en a d'autres, notamment la problématique de la conversion des terres agricoles pour une production différente, celle qu'on va appeler la biomasse, destinée à la fabrication de ces biocarburants et demain, enfin c'est déjà en cours, le biométhane. Ça peut entraîner aussi des phénomènes de déforestation, on l'a déjà dans d'autres pays, la perte de la biodiversité et des conflits à venir déjà en France, mais qui existent dans d'autres pays, sur l'utilisation des terres. De plus, des pratiques agricoles intensives, puisque là on va aller sur l'agriculture intensive, ça va nous poser de certains problèmes, puisqu'on sait tous que pour le manger plus propre, plus sain, eh bien c'est pas l'agriculture intensive qu'il nous faut. Donc là, il va y avoir un conflit qui existe déjà pour les biocarburants, et puis aussi des problèmes sur la dégradation des sols, sur l'utilisation excessive de l'eau et la pollution des cours d'eau. Donc, toutes ces inquiétudes pour le biométhane, eh bien, il suffit de regarder le vécu pour les agrocarburants. On tombe donc, comme je l'ai dit, dans la spirale de l'agriculture intensive. À cela s'ajoute l'arrivée des OGM qui sont proscrits pour la consommation humaine, mais qui sont permis à l'importation pour les biocarburants. En théorie, on n'a pas le droit d'en faire pousser en France, mais on a le droit d'en importer. Donc ça pose quelques soucis. En matière d'intérêt économique, l'un des avantages cités des biocarburants, c'était de nous dire que ça allait vers l'indépendance énergétique des pays producteurs vis-à-vis donc des carburants fossiles. On a oublié dans ce discours que, à de très rares exceptions près, comme le Venezuela, ce sont les multinationales qui sont propriétaires des ressources fossiles, que ce soit en Russie, Total est propriétaire de depuis le pétrole en Russie et ailleurs, et que le souci, c'est pas tant les pays, même s'ils ont une politique, les pays, que les producteurs et les transformateurs, et ce sont en l'occurrence les multinationales. Voilà, donc il faut faire attention dans le discours quand on nous dit le gaz russe, le gaz algérien ou le gaz norvégien, par exemple. Eh bien, il appartient ni aux Algériens, ni aux Norvégiens, ni aux Russes. Alors, je le dis pour le gaz, mais c'est vrai aussi pour les hydrocarbures liquides. Alors, les dés sont faussés en matière de concurrence économique. Alors, concurrence, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en attendant dans un monde libéral où c'est le système capitaliste qui domine, faut quand même savoir que pour les biocarburants, on a complètement faussé la donne avec des aides diverses, notamment la détaxation de 80 centimes sur l'éthanol et de 51 centimes sur le diesel. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est un prix artificiel. Et la différence, elle est où ? Elle est aussi de solliciter le consommateur qui va payer le coût de ces différences, puisque les agrocarburants à la fabrication sont nettement plus chers que les carburants issus du pétrole. Pour ce qui est de la mise en œuvre aussi, de la fabrication de ces biocarburants, il faut savoir qu'ils consomment énormément d'énergie, que ce soit pour faire l'éthanol ou le diester. Pour l'éthanol, on a les chiffres, hein, c'est à peu près la moitié en consommation d'énergie de ce qu'il est censé produire. Et pour le diester, c'est plus de la moitié, puisque pour fabriquer du diester, il faut chauffer, il faut distiller, et ça coûte évidemment très cher en énergie. Alors voilà, ça c'est un des problèmes par rapport au coût, mais il faut regarder aussi, on est à l'heure du bilan, hein, ça fait plusieurs décennies, sur le rendement à la consommation pour celui qui a une bagnole. En fait, les chiffres sont tout à fait parlants. On fait nettement moins de kilomètres avec des agrocarburants, que ce soit avec un moteur à essence ou un moteur diesel. Ça se voit pas beaucoup parce qu'on n'en met que quelques pourcents, selon les modèles, entre 5 et 7%. Mais tout de même, la différence est sensible. Et si on devait en mettre davantage, eh bien, on ferait encore nettement moins de kilomètres. Donc, on a tous les chiffres là-dessus, mais je vous passe à la radio, mais on peut les retrouver. Alors, la question centrale, je dirais, aussi, c'est est-ce que c'est une solution pour nos agriculteurs ? On a vu que cette diversification, je l'ai appelée en son temps ballon d'oxygène, dû dire ballon d'hydrocarbures gazeux, mais bon, bref, ballon d'oxygène. Le problème, c'est notamment le changement de la finalité de la profession, puisque est-ce que le travail de la terre, c'est fait pour alimenter ou est-ce que c'est fait pour produire de l'énergie, pose énormément de problèmes. Est-ce que la possibilité d'avoir des biocarburants a soulagé nos agriculteurs depuis une trentaine d'années ? Je dis 30 ans puisque c'est à peu près le chiffre qu'on peut retenir sur la production conséquente de biocarburants en France. Eh bien, j'ai regardé, on a depuis cette époque divisé par 3,5 le nombre d'exploitations agricoles et on a divisé par environ 3 le nombre de surfaces. Non, on a multiplié par 3 le nombre de surfaces par exploitation. Donc on voit une tendance importante et on voit aussi que les biocarburants n'ont pas réglé finalement la perte du nombre en grande masse de nos exploitations agricoles. Par contre, le phénomène qu'on enregistre depuis 30 ans, c'est la concentration avec, je viens de le dire, le triplement des surfaces en moyenne, hein, c'est une moyenne, de nos exploitations agricoles. Un autre phénomène, c'est qu'on constate aussi que les productions où nous sommes largement exportateurs, le blé par exemple, à l'étranger, eh bien ce sont aussi, en même temps, comme dirait l'autre, des productions où nous sommes de plus en plus importateurs. Alors on pourrait dire qu'on prenne qui pourra, c'est effectivement assez incompréhensible qu'on exporte massivement et qu'on importe de plus en plus les mêmes produits. Eh bien la réponse, elle est assez simple, c'est le poids de la spéculation et donc le poids aussi croissant des marchés financiers qui sont certainement liés à la chute du nombre de nos fermes et à la concentration avec les fermes qui restent des surfaces agricoles. Donc ce sera pour moi le mot de la fin. Est-ce que le problème numéro un ne serait pas avant tout le problème de la mainmise des marchés financiers ? Voilà, donc j'ai été un petit peu long, mais c'était aussi pour faire, et j'y reviendrai, des parallèles avec ce qui s'annonce, c'est-à-dire de plus en plus de méthaniseurs agricoles dans notre pays. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le triptyque de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.